Micro ouvert sur Marmite FM.
Venez faire découvrir vos projets, votre association, vos événements.
Le micro est ouvert, vous avez la parole.
Donc en fait, c'est une exposition presque triple, parce que...
Le principe, c'est qu'on va mettre des poètes, de la musique et...
Et voilà, c'est du jeu de rôle grandeur nature, c'est une enquête policière.
40 personnes qui ont trouvé vraiment l'idée très intéressante.
C'est pour le plaisir du jeu et du temps partagé ensemble.
Micro ouvert sur Marmite FM. Nouradine Anne.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Micro Ouvert sur Marmite FM 88.4. Pour ce nouveau numéro de Micro Ouvert, nous recevons trois invités. Jacqueline Lortua d'abord.
Bonjour.
Bonjour.
Socio-économiste et urbaniste, notamment experte en aménagement durable. Elle a été conseillère technique dans différents cabinets ministériels ou encore responsable de bureaux d'études et de conseils. Elle travaille également sur les thématiques de travail, d'emploi ou encore de territoire. Claudine Parer est également avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Militante associative depuis 40 ans, elle est notamment coordinatrice du collectif Saclay Citoyens et, on en parlera tout à l'heure, elle est à l'origine d'un ouvrage collectif avec des habitants du plateau de Saclay. Cet ouvrage donc s'intitule « Citoyens de terre contre État de fer ». On y reviendra tout à l'heure justement, on en parlera dans l'émission. Et enfin, Arm Smith qui est responsable associatif également, coordinateur du collectif OIN Saclay, créé en 2006. 40 ans également, Arm Smith s'intéresse aux questions d'urbanisme et il est habitant de Saclay.
Non, de Vaux-Allon.
De, pardon ?
De Vaux-Allon.
De Vaux-Allon, d'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir parler de ces enjeux du plateau de Saclay. Quatrième émission déjà. Je rappelle aux auditeurs qu'ils pourront bien sûr retrouver les trois premiers épisodes sur le site de la radio. Allez, on va commencer cette émission en posant justement la problématique du jour, puisque nous nous questionnons aujourd'hui sur l'utilité de la ligne 18 du métro qui doit relier Orly à Versailles à l'horizon 2030. Est-ce qu'elle sert à quelque chose ou pas? Est-ce qu'elle va permettre de réduire les temps de trajet pour les travailleurs, les salariés et consoeurs? Est-ce qu'elle va créer des milliers d'emplois comme annoncé? D'ailleurs, comment ce projet de ligne 18 s'inscrit-il dans le projet du Grand Paris? Voilà, toutes ces thématiques dont vous avez déjà entendu parler. On va parler d'aménagement de territoire. On va parler également de développement durable, d'écologie certainement, avec nos trois invités. La première question, elle est pour vous, Arm Smith, puisqu'il s'agit d'abord de questionner l'utilité de ce projet de ligne 18. C'est d'abord par la loi qu'on va commencer, avec une loi qui pose comme préalable, avec son article 17 de la loi du 31 décembre 2012. Vous voyez, on commence fort, de la programmation des finances publiques. Cette loi dit que tout porteur de projet d'investissement financé par l'État ou par l'un de ces établissements, doit réaliser préalablement une évaluation socio-économique. Est-ce que vous pouvez d'abord nous définir ce qu'est une évaluation socio-économique? Et ensuite, on va rentrer justement dans le détail pour voir quelle a été cette évaluation, comment elle s'est faite dans le cadre du projet de ligne 18. Bonjour, c'est à vous.
Oui, bonjour. L'évaluation socio-économique a pour but de faire un bilan entre le coût et les avantages d'un projet. Or, les coûts sont évidemment exprimés en euros, mais les avantages ne le sont pas a priori. Donc, on a mis en place un système pour monétariser, des règles pour monétariser les différentes catégories d'avantages. Ces avantages sont de deux types. Les avantages dits conventionnels, qui sont régis par un texte officiel, et les autres, c'est-à-dire les avantages non conventionnels ou non classiques, qui ont été définis, en l'occurrence, pour le projet du Grand Paris Express, par la Société du Grand Paris Express, la SGP, qui est le maître d'œuvre de cette... maître d'ouvrage de ce projet, qui a donc inventé des règles pour monétariser, enfin exprimer en euros, des avantages qui ne sont définis que par elle.
Alors, donc si je comprends bien, il y a une partie donc conventionnée, c'est-à-dire avec des critères qui sont mis en place initialement par l'État, je ne sais pas, une dizaine de critères par exemple qu'il faut évaluer et ensuite qu'il faut juger, c'est-à-dire est-ce que c'est positif ou négatif, et puis d'autres critères qui sont inventés, apportés par le maître d'œuvre.
Tout à fait. Dans les avantages conventionnels, C'est principalement le gain de temps que apporterait cette nouvelle infrastructure de transport. Et ça, c'est une règle pour tous les projets d'infrastructure de transport, pas seulement pour celle-ci. Alors, le gain de temps, c'est, vous comprenez, on dit quelqu'un qui doit se déplacer du point A au point B, bon, il gagne tant de minutes de parcours. Alors, en réalité, ce gain de temps, il n'existe pas, c'est-à-dire qu'il est absorbé par les usagers qui profitent de ce gain de temps pour le convertir en autre chose, en un autre avantage, à savoir un déplacement plus long dans le même temps. Donc, ils vont s'installer plus loin en périphérie et de ce fait, ils vont créer de l'étalement urbain mécaniquement. Et pourquoi ils font ça? C'est parce que plus loin en périphérie, l'immobilier est moins cher ou ils sont plus proches de la nature. Et toutes sortes de raisons comme ça qu'on comprend beaucoup, encore mieux dans un contexte de Covid. Donc ça, c'est les avantages, principalement les avantages conventionnels. Je passe sur le reste, c'est la régularité, le confort, des trucs comme ça, mais ça, c'est marginal par rapport aux sommes, au montant que l'on trouve comme avantage. Et ensuite, il y a les avantages non conventionnels. Et là-dedans aussi, il y a plusieurs catégories. Les principales, c'est ce qu'on appelle les effets d'agglomération et, d'autre part, le nombre d'emplois créés grâce à cette nouvelle infrastructure. Alors, d'une part, les effets d'agglomération, ça traduit l'idée qu'on va faire plus dense et que ça amènera des avantages économiques. Des entreprises plus performantes, etc. Donc ça, et puis les nombres d'emplois, vous comprenez, enfin, on part du principe que plus il y a de transport, plus on crée des emplois. Toutes ces hypothèses sont tout à fait contestables et nous les contestons.
Alors justement, on va s'arrêter là, Armsmith, on va revenir légèrement en arrière, d'abord sur les avantages conventionnels, puis on va redéfinir juste après, on va prolonger après sur les non conventionnels. Vous nous disiez que ce gain de temps, donc, c'est un élément qui est mis en avant en amont de ce projet de ligne 18, c'est-à-dire qu'on va questionner, on va faire des études pour savoir si vraiment cette ligne 18 va permettre à ces usagers de gagner du temps dans leur transport. Ce qui est annoncé dans le site internet de la Société du Grand Paris, c'est que par exemple, pour faire Versailles-Chantier aéroport d'Orly, actuellement c'est 48 minutes, grâce à cette ligne 18, 30 minutes. Donc on voit que le gain est de 18 minutes, donc c'est positif, ça va apporter quelque chose, donc c'est quelque chose qui va dans le sens de il faut faire cette ligne 18. Alors cet argument, que répondez-vous du coup à cet argument ?
Il y a deux critiques à faire. D'une part, les 48 minutes, c'est pas exact. On peut faire mieux. Les gens qui prennent de temps en temps l'avion pour aller, qui vont à Orly pour prendre l'avion, ils savent faire mieux que 48 minutes. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a évalué ça avec précision. Il arrivait à une minute ou deux minutes de différence. Donc déjà, ce gain de temps, il est quasi nul. S'il n'est pas négatif, d'ailleurs, je ne me souviens pas du résultat précis. Mais en tout cas, il est très, très faible. Et deuxièmement, donc, je disais que les gens qui peuvent prendre cette ligne-là ne vont pas forcément rester là où ils sont. Ils vont profiter de cette ligne-là pour aller s'installer plus loin, là où l'immobilier est plus cher, par exemple. Et donc, ce gain de temps, il le troque pour un gain spatial. Et au du compte, donc cet avantage-là n'est pas positif, il est plutôt négatif puisque les gens vont augmenter l'étalement urbain.
Alors justement, passons maintenant au non-conventionnel. Et d'ailleurs, ça va nous poser une question sur qui est chargé de ces évaluations. Est-ce qu'on pourrait détailler un petit peu comment se fait ce processus, notamment pour comprendre que la Société du Grand Paris, eh bien, c'est elle qui est à la fois juge et partie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe à ce niveau-là ?
Vous avez déjà répondu à la question. La SGP est juge et partie. C'est ça qui est très, très contestable. Ceci dit, la loi prévoit que pour ce genre d'évaluation, pour des projets qui dépassent un certain montant, il y a des contre-expertises.
indépendante
par des experts indépendants. Donc ça se passe ça se passe sous l'égide de du secrétariat général pour l'investissement, le SGPI, qui est un service, disons, du Premier ministre, qui une fois que on a décidé de faire une enquête publique, reçoit de la part de la SGP un projet de rapport d'évaluation socio-économique, et nomme ensuite des experts. Typiquement, il y en a quatre, une équipe de quatre experts. Et ces experts-là donc vont se pencher sur le projet, écrivent un rapport technique, qui dit pas il faut le faire ou pas le faire, il dit seulement ceci est bon, cela est mauvais. Et ensuite, donc ça revient au SGPI, qui établit son propre rapport basé sur cette évaluation par les experts, et crée donc un avis qui renvoie à la SGP. Ensuite, la SGP va prendre en compte ou pas prendre en compte les remarques qui ont été exprimées par le SGPI et par les contre-experts. Et en fonction de ça, il met à jour son projet d'évaluation socio-économique ou pas.
Alors justement, globalement, cette contre-expertise, qu'est-ce qu'elle a apporté? Est-ce qu'on a accès à ces contre-expertises? Et qu'est-ce qu'elles ont dit concrètement sur la première évaluation socio-économique qui avait été fournie dans un premier temps par SGP?
C'est un rapport assez circonstancié, ouais. Qui donne un avis défavorable au tronçon Saclay-Versailles, le tronçon ouest de cette ligne. Il faut bien différencier les deux tronçons.
Oui, parce que la ligne 18 est plus large que le tronçon qui
la ligne 18 va de Orly à Versailles en passant par Massy, Saclay, etc. Et donc le tronçon qui va d'Orly en passant par Massy jusqu'à Saclay, il va être réalisé a priori en 2026, enfin, va être mis en service en 2026-2027, alors que l'autre tronçon, le tronçon ouest qui va de Saclay à Versailles, serait, s'il était réalisé, serait mis en service en 2030, en tout cas selon les prévisions. Dans la pratique, il y a toujours un délai, hein, mais bon, ça c'est le principe. Dans l'évaluation initial, les contre-experts avaient dit ce tronçon ouest, il n'a pas d'utilité, il n'est pas rentable, il a un bilan socio-économique négatif. Et l'autre tronçon, on vous donne, on vous accorde le bénéfice du doute, on va supposer que le cluster Paris-Saclay va prendre une ampleur considérable, et donc on admet que ce tronçon est ne serait pas complètement inutile.
Donc, malgré cela, malgré cet avis défavorable, ou en tout cas jugé négatif du bilan socio-économique par cette contre-expertise, pardon, malgré cela, cette ligne 18 a été déclarée d'utilité publique. Voilà. Ça veut bien dire que soit la SGP a réussi à convaincre, ou en tout cas à fournir un calcul qui montrait que le bilan était positif.
Ben, oui et non, parce que la SGP ne peut ne pas tenir compte de cet avis. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Aussitôt que cet avis négatif avait été proclamé et d'ailleurs répercuté par la presse, le président de la SGP de l'époque, Monsieur Philippe Yvin, il s'est empressé pour dire « Ah bon, certes, cet avis existe, mais rien ne nous empêche de poursuivre ce que l'on a lancé. » Je cite à peu près textuellement.
On va faire un petit crochet du côté de Claudine Parer pour peut-être resituer, avant de revenir à Aaron Smith et également à Jacqueline Lortua, on va d'abord peut-être faire un petit point de... Voilà, recontextualisation pour dire qu'il est ce projet de ligne 18 s'inscrit dans un projet plus large qui est celui du Grand Paris. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement le pourquoi de cette ligne 18 ici entre Orly et Versailles, Claudine Parère?
Oui, en fait, c'est vrai que c'est un projet qui est le projet du Grand Paris, mais c'est plus largement depuis les années 60 que les décideurs ont eu la volonté de favoriser l'expansion spatiale de l'agglomération parisienne.
Oui.
Le projet du Grand Paris, c'est plus récemment, depuis les années 2000, défini comme un projet urbain, social, économique, d'intérêt national, qui s'appuie sur un réseau de transport public de voyageurs. En fait, il s'agit de relier les grands pôles économiques, Saclay, Roissy, La Défense, entre eux, avec les aéroports, pour renforcer l'attractivité internationale et, comme on dit, libérer les moteurs de la compétitivité. Tout un jargon qui ne concerne pas franchement directement les usagers et les habitants des territoires, dont la préoccupation immédiate n'est pas forcément d'avoir à disposition des moyens de transport pour relier Orly, La Défense et Roissy. Ce qui demande les gens, ce sont des transports du quotidien. Alors c'est vrai que ça s'inscrit dans une idée de compétitivité internationale, l'idée que l'Île-de-France doit encore renforcer son attractivité, alors que l'Île-de-France est déjà la région la plus peuplée de la France, avec près de 13 millions d'habitants, enfin 12 278 000 actuellement, un PIB très élevé qui est la région la plus riche en Europe. Donc on peut se demander pourquoi il faut encore renforcer son attractivité, mais c'est vrai que c'est la logique des décideurs d'inscrire ça dans la compétitivité internationale avec l'idée à l'époque, hein, c'était dans le début des années 2000, que plus l'Île-de-France serait riche et plus il y aurait donc ce qu'on appelait le ruissellement. Hein, c'est-à-dire que ça permettrait de ruisseler la richesse sur les autres régions. Ce que maintenant les économistes ont fini par démontrer que c'était totalement faux. À l'époque, peut-être que certains y croyaient, mais clairement maintenant, toutes les données économiques vont dans le même sens. Il n'y a pas de ruissellement, c'est-à-dire que les riches s'enrichissent encore plus et les pauvres s'appauvrissent encore plus. Et donc, on était dans cette logique de développer des pôles de compétitivité en Île-de-France, enfin des pôles dits de développement, et de les relier. Et c'est ça qui a été en fait le moteur de ce Grand Paris, qui a été complété ensuite par une réforme très institutionnelle. Mais là, on rentre dans du jargon extrêmement technique qui va peut-être pas passionner vos auditeurs, mais c'est vrai qu'il faut voir qu'il y a plein de décisions qui ont été prises, qui sont prises totalement sans concertation avec les habitants, puisque la loi Grand Paris, c'est une loi avec une opération d'intérêt national, c'est-à-dire décidée par l'État sans consulter les habitants, et puis se rajoute la couche institutionnelle supplémentaire de la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire dans le millefeuille administratif que tout le monde connaît, une couche supplémentaire qui fait qu'on va encore plus rassembler les richesses au centre de Paris et dans la petite couronne, en considérant que la grande couronne est là pour être un bassin de main-d'œuvre et éventuellement pour d'autres utilités. On y reviendra peut-être en voyant le bilan énergétique et environnemental du Grand Paris. Mais voilà, le contexte, c'est un projet qui n'est pas destiné exactement à l'amélioration des conditions de vie des habitants, mais au renforcement de l'Île-de-France dans la compétition internationale.
Ben justement, je vais vous lire un petit texte hein, sur le site de la Société du Grand Paris hein, qui va compléter certainement ou peut-être rejoindre ce que vous disiez. Puis vous allez pouvoir réagir ensuite dessus. Voilà, comment est vendu ce projet sur le site de la Société du Grand Paris, comme nous disait Aaron Smith tout à l'heure, donc qui est le porteur de projet, hein, qui est le maître d'œuvre en quelque sorte de ce projet. Un ancrage local, une ambition nationale. La ligne 18 facilitera les déplacements des habitants de l'Essonne et des Yvelines grâce à ses nombreuses correspondances, lignes N et U, transit du Transilien, les RER B et C, le tramway T7, etc., etc. Elle constituera une porte d'entrée rapide vers Paris grâce à sa connexion avec la ligne 14 à la gare d'aéroport d'Orly. Les échanges avec l'ensemble du territoire national et l'international, voilà pour reprendre ce que vous disiez, seront également améliorés par ses correspondances à Massy-Palaiseau avec le TGV et l'aéroport d'Orly. Voilà, on pourrait continuer également, voilà, traversant un territoire stratégique du Grand Paris, la ligne 18 desservira l'un des premiers pôles de recherche et de développement du monde, Paris-Saclay. Elle assurera également la mise en relation des grands pôles économiques situés à Orly, Antony, Massy, Saint-Quentin-Yvelines, etc., etc. Donc, vous voyez que c'est quand même l'argument principal qui est mis en œuvre, de dire, d'ailleurs le président de la République l'avait rappelé en janvier dernier, de dire qu'on n'a pas le choix pour s'en sortir face à la compétition internationale. Il nous faut absolument créer ce cluster et il nous faut absolument lier les grands pôles de compétitivité pour, voilà, pour pouvoir concurrencer, Shanghai, pouvoir concurrencer la Silicon Valley ou d'autres encore. On va donner d'abord la parole à Jacqueline Lortuet, puis je reviendrai vers vous, Claudine Parra. Allez-y, Jacqueline Lortuet.
Donc moi, j'ai comme métier socio-économiste, donc je travaille sur justement la relation positive entre l'offre économique portée par les dirigeants politiques, les grands groupes, les grandes entreprises, et la demande sociale des populations locales qui habitent sur les territoires locaux. Et je m'attache particulièrement sur l'Île-de-France parce que c'est la région qui cumule toutes les complexités et aussi qui bat tous les records d'inégalités territoriales. Et mon métier consiste justement à aider les territoires à réfléchir comment répondre à leurs besoins. On a alors typiquement ce qu'on vient de décrire, c'est une offre économique descendante qui tombe dessus les populations et qui ne correspond en rien à leurs demandes. Et alors on tord la réalité pour faire croire aux populations locales qu'on va apporter le bonheur et un supplément de bien-être en leur promettant des emplois, des transports, un désenclavement, une attractivité. Bref, un développement territorial qui est censé les sortir de la galère, de l'isolement, de la pauvreté, du chômage, etc. Et donc c'est complètement faux. En réalité, le plateau de Saclay est un territoire très menacé d'Île-de-France. Pourquoi ? Parce que c'est un espace qui est soi-disant vacant. C'est-à-dire qu'en raison de son histoire et de sa géographie, c'est un espace où l'espèce humaine était peu présente, alors qu'il y a des tas d'espèces végétales, animales, qui vivent très bien et qui prolifèrent sur ces terres essentiellement agricoles. Donc pourquoi le plateau de Saclay est resté libre et a échappé à l'urbanisation ? Eh bien, c'est parce que c'est un espace qui est peu propice à l'urbanisation, parce que c'est un espace de plateau isolé entre des vallées encaissées du fil d'accès, et donc peu propice à implanter des grandes densités urbaines. En fait, il faut bien voir que l'agglomération parisienne s'est implantée dans un grand bassin hydrographique et s'est développée le long des vallées, et des fleuves et des rivières, et c'est emprunté par des grands axes de transport qui ont permis une urbanisation qui s'est étendue dans ces vallées. Et donc, l'ensemble de la zone agglomérée ressemble à une pieuvre avec des tentacules qui s'étalent le long des vallées. Et puis, à l'intérieur de cette pieuvre, il y a des espaces de respiration qui ont été conservés parce que c'est des buts témoins, c'est des plateaux et c'est des zones qui n'ont pas été urbanisées parce qu'elles n'étaient pas propices à l'urbanisation. Et moi, je défends, par exemple, au nord de l'Île-de-France, un espace qui s'appelle le Triangle de Gonesse, qui n'a pas été urbanisé parce qu'il est entre les aéroports de Roissy et du Bourget. Donc il est le long de l'autoroute A1 et qu'il est enclavé dans 4 axes de transport et il est interdit à l'habitat au resto du bruit. Donc il se trouve qu'au moment du délire mégalomaniaque de Sarkozy en 2007, qui voulait faire un grand Paris, qui joue dans la cour des grands, etc., et ben, où est-ce qu'on pouvait développer ces grands projets? Ben, c'était le seul dans les endroits qui restaient, qui étaient disponibles. Donc en fait, on veut mettre des zones extrêmement denses dans des zones qui ne sont absolument pas faites pour l'urbanisation. Donc, pour que la pilule passe, on fait croire aux gens que ça va correspondre à leur bonheur. Donc, on a une situation de 100% d'offres politiques et économiques, et on fait croire que ça correspond à la demande des populations locales. Et alors, moi qui suis socio-économiste, je bondissais tout à l'heure à la présentation de Harm Smith qui parlait de l'évaluation socio-économique. Normalement, pour moi, le social, c'est-à-dire la prise en compte des populations locales, et l'économique, la prise en compte des grands intérêts métropolitains, devrait être dans une relation d'égal à égal. Pour moi, c'est un couple égal à égal. Et alors, en fait, qu'est-ce qu'il y a de social dans cette évaluation socio-économique? Rien, en dehors de, soi-disant, il y a un critère chômage, mais tout le reste, c'est des critères qui sont des critères, métropolitains, et ce ne sont pas du tout des critères liés aux populations. Donc, on est face à un mensonge. Ce mensonge est entretenu par une vision il y a une mainmise de l'État sur la région Île-de-France, parce qu'il y a des enjeux économiques énormes. Et donc, l'État a décidé de faire une main basse sur la région Île-de-France et de décider par la loi ce qui était bon et comment allait être organisée l'Île-de-France. Donc, on a un système d'exception, alors que les autres régions françaises sont organisées par des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme régionaux. Et bien, nous, on a un schéma régional qui doit avaliser tout ce que la loi Grand Paris a dit dans ses articles. Et alors, comble d'exception dans l'exception, c'est que dans la loi, il y a même un chapitre réservé au plateau de Saclay, qui c'est un espace local qui, lui, est aussi régi par la loi Grand Paris. Donc, non seulement on a une région qui est instrumentalisée par l'État, mais on a un territoire local à l'intérieur d'une région instrumentalisée qui est lui-même instrumentalisée avec un système d'exception et un système d'intérêt national qui décide une opération d'intérêt national, OIN, qui décide de la façon dont les choses vont être organisées. Mmh. Et avec toute cette offre descendante, politique, pensée complètement sans les populations, une fois que tout a été décidé à l'avance, on essaye de faire descendre ça sur les populations, on amène des grues, des tunneliers, etc. Et après, on fait un semblant de faire une concertation en faisant croire aux gens, et avec des chiffres complètement faux, que ça va être bon pour eux.
Mmh. Scandale. Claudine Parère.
En fait, il faut bien voir que là, pendant un certain temps autour de Paris, il y a eu une volonté de maintenir dans les années 80 des espaces ouverts autour de Paris avec ce qu'on appelait la ceinture verte.
Oui.
Et puis, dans les années 90, on a vu que 62% des espaces urbanisables prévenus par le schéma directeur d'Île-de-France étaient dans la ceinture verte et qu'actuellement, le schéma directeur de l'Île-de-France prévoit de continuer à consommer plus de 1800 hectares d'espaces naturels chaque année. Le plateau de Saclay, il ne fait pas exception à cette volonté depuis des années d'urbaniser des terres agricoles. On a déjà perdu plus de 1000 hectares entre 1988 et 2000, dans le cas de la loi Grand Paris, il y avait 2700 hectares cultivés sur le plateau de Saclay. La loi Grand Paris, elle officialise le fait qu'il n'en restera plus que 2300 hectares. C'est absolument monstrueux. Je sais que vous avez déjà eu une émission sur l'agriculture, mais c'est tout de même vrai qu'à l'heure où tout le monde se préoccupe du dérèglement climatique et de la préservation de la biodiversité, au moment où tout le monde se préoccupe aussi de s'alimenter, tout simplement, on sait qu'actuellement l'Île-de-France n'a que 3 jours de réserve pour alimentaire. Donc, quelle est la logique à continuer d'urbaniser des terres agricoles? Parce que Ce que nous contestons dans la ligne 18, c'est non seulement son inutilité, parce que qui est-ce qui va aller tous les jours d'Orly à Versailles? Il faut quand même aller voir la réalité du nombre de voyageurs. Mais indépendamment de ça, c'est que on sait très bien que ce métro, c'est vraiment le cheval de Troie hein, pour l'urbanisation du plateau de Saclay. Je vais vous lire très brièvement, parce que ça va aller quand même le coup. Dans la dernière enquête publique qui a eu lieu, il est écrit que en fait, pour le moment, il n'y a pas d'impact positif pour éviter compenser les émissions induites par le projet de la ligne 18, c'est-à-dire en termes de gaz à effet de serre. Ouais. Et l'étude d'impact dit que comme remède à ce coût cargo supplémentaire, la poursuite de l'urbanisation du plateau de Saclay sera nécessaire, c'est-à-dire densification autour des gares et avec un développement de structures urbaines. Ce qui veut dire qu'on va urbaniser le plateau de Saclay pour éviter que la consommation de gaz à effet de serre émise par la ligne 18, qui n'aura pas d'effet positif, elle rend nécessaire de densifier et d'urbaniser de façon supplémentaire le plateau de Saclay. C'est absolument absurde, d'autant plus que quand on dit ça, on ne prend pas en compte le fait qu'il va falloir en plus pour construire donc émettre des gaz à effet de serre, qu'il va falloir induire aussi fabriquer des infrastructures.
Et donc, la problématique des déchets également.
Voilà, on aura aussi une problématique de déchets. La commission d'enquête a conclu récemment qu'au vu des éléments du dossier, la commission d'enquête estime qu'elle manque d'éléments pour porter une appréciation sincère et objective sur le bilan carbone de la ligne 18. Ça veut bien dire clairement que le bilan carbone de la ligne 18, il n'est pas bon. Donc on va avoir un bilan de carbone de la ligne 18 qui n'est pas bon. On va avoir des déchets qui vont être de l'ensemble, alors là, pour pas seulement la ligne 18, mais du Grand Paris, qui vont être mis sur la Grande Couronne, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Ça a été chiffré de façon monstrueuse et personne ne sait quoi faire de tous ces déchets. On ne sait pas ce que vont devenir les ressources en eau, puisqu'avec le réchauffement climatique, comment va-t-on faire avec l'augmentation de la population? Tout ça, on ne sait pas. La consommation électrique totale du Grand Paris, elle équivaut vaudra à celle d'une ville comme Rennes. Avec tous ces éléments environnementaux, le fait qu'on va supprimer des terres agricoles qui sont là pour l'alimentation, mais comment peut-on aujourd'hui, avec tous les problèmes qui se posent, continuer à dire que la ligne 18 a un sens, qu'elle est bénéfique et que au contraire, il ne faudrait pas mieux arrêter, faire un moratoire sur la partie qui traverse le plateau de Saclay entre Saclay et Versailles et se poser tranquillement les bonnes questions, c'est-à-dire quels sont les besoins de la population, comment est-ce qu'on voit un territoire, quelle est la vision du territoire Yvelines, la vision du territoire Essonne, qui ne sont pas les mêmes de leur avenir.
C'est pourtant un argument qui est souvent avancé. Hein. La ligne de métro 18, c'est un métro. Par définition, il y a beaucoup moins de gaz à effet de serre, beaucoup moins de CO2 qui est renvoyé dans l'air. On a cette image hein, du métro, hein, un transport en commun qui est beaucoup moins gourmand en énergie. Et puis, ça permettra de réduire. C'est également quelque chose que j'ai lu, que j'ai vu sur les argumentaires de la SGP. Ça permettra de réduire également le trafic autoroutier. Arndt Smith.
Oui, ça, c'est complètement faux. Il y a des chiffrages hein, en la matière. C'est la DRIEAT, émanation de l'État, pour l'Île-de-France, qui a fait des modélisations et des calculs sur la diminution de la circulation automobile grâce aux différentes lignes du Grand Paris Express. Or, pour la ligne 18, on arrive à un chiffre de 0,9% de diminution de la circulation automobile. Donc, c'est-à-dire peanuts. Et il faut savoir que la SGP vend, comme vous le venez de le dire, vend la ligne 18 en disant on va diminuer les émissions de gaz à effet de serre parce qu'on va sortir les gens de leur voiture. Et puis, on va limiter l'étalement urbain. Alors, comme précédemment, je vous ai déjà indiqué que cette ligne, au contraire, va augmenter l'étalement urbain. Et puis, d'autre part, donc, comme je viens de dire, la circulation automobile, elle va quasiment rester pareille. Donc, tous ces arguments-là sont totalement sortis du néant. Et ce qui est dramatique, c'est que grâce à ces arguments-là, La SGP a pu contracter ce qu'on appelle les obligations vertes pour financer ce projet.
Ah oui, en disant que c'était un projet vert, entre guillemets, puisque ça allait faire baisser les infrastructures, enfin ça allait faire baisser le trafic autoroutier, ça leur a permis de justement contracter ces emprunts verts, oui.
Absolument, et c'est vrai, pas seulement pour la ligne 18, c'est pour tout le réseau Grand Paris Express. Actuellement, 92% des emprunts sont des obligations vertes. Alors, ces obligations vertes vont atterrir dans des portefeuilles d'actions via des fonds communs de placement, des choses comme ça, sans que les détenteurs de ces titres prennent conscience de ce qu'ils ont dans la main.
Alors, je rappelle encore une fois, j'ai eu l'occasion de le rappeler dans d'autres émissions, si les auditeurs, les auditrices s'interrogent des fois sur peut-être la non-présence de représentants de la SGP autour de la table quand on mène des débats, c'est tout simplement parce que ils ne souhaitent souvent pas s'exprimer dans les médias, en tout cas pas dans notre média. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir des personnes qui défendent, en tout cas au niveau médiatique, dans nos radios, d'avoir voilà, des contradicteurs. Jacqueline Nortua.
Oui, je voulais rajouter une mouche par rapport à la critique de Claudine et de Larme. D'ailleurs, en utilisant à chaque fois le conditionnel, parce que même si les grues sont là, même s'il y a une volonté militante, etc., le militant qui se bat contre les grands projets qu'on prétendait inutiles et qu'on appelle maintenant plutôt nuisibles, eh bien, on utilise le conditionnel, c'est-à-dire on n'utilise jamais un futur, parce que justement, tant que la ligne n'est pas inaugurée, nous battons jusqu'au dernier. Donc je voulais revenir sur les critères d'évaluation et sur le profil de ce fameux métro de la ligne 18 et soi-disant Orly-Versailles. C'est très joli de dire que ça gagne 18 minutes, mais à quoi ça sert puisqu'il n'y a pas de demande? C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que cette ligne 18... ne correspond pas du tout à des besoins. D'abord, sa fonction n'a rien à voir avec les besoins des habitants, parce que c'est un métro qui est ce qu'on appelle un axe de transit, c'est-à-dire qu'il traverse, il a pour fonction de traverser rapidement un territoire et de relier deux pôles soi-disant d'excellence entre Orly et Versailles. Et donc, il faut qu'il y ait peu de guerre, puisque la fonction de ce grand axe traversant, c'est une fonction métropolitaine qui va vite et qui relie des grands pôles. Donc le problème, c'est qu'on est en périphérie et donc il n'y a pas les flux, la fréquentation qu'il peut y avoir en zone dense. Donc ça, c'est quelque chose de faux. Il n'y a pas besoin de relier très rapidement des grands pôles entre eux en zone périphérique. Ensuite, si vous voulez, ce métro relie trois bassins d'emploi qui n'ont rien à voir. On a d'abord, d'une part, le bassin de Orly, qui est organisé nord-sud, et qui va utiliser la future ligne 14 pour rejoindre Paris. Et puis, on a par ailleurs un bassin qui est le bassin de Massy-Palaiseau avec un satellite Orsay-Saclay, et puis qui lui aussi a des besoins nord-sud. Et donc, à ce moment-là, le tracé, les deux bassins organisés nord-sud, Orly et Massy, sont traversés par la ligne 18 qui est est-ouest. Et après, on passe dans le 78 à un bassin, 51 Yvelines Versailles, et ce bassin est organisé est-ouest, et à ce moment-là, la ligne 18 devient nord-sud, donc elle ne correspond pas non plus à l'organisation du bassin. Ces trois bassins sont très peu reliés entre eux. C'est-à-dire chacun fonctionne de façon relativement autonome en relation avec la zone dense et la capitale. Il y a très peu de flux entre les bassins. C'est-à-dire, j'ai démontré dans une réponse à l'enquête publique qu'il y a des flux entre bassins qui sont 21 fois moins importants qu'à l'intérieur de chaque bassin. Donc, il n'y a pas de besoin. Donc, ça ne sert à rien de gagner
de la vitesse,
puisque on n'a pas besoin, les gens de Versailles n'ont pas besoin d'aller à Rolly, sauf peut-être pour prendre l'avion, mais enfin, si vous voulez, ce qui est absurde. Alors, on peut aussi contester plus si on part, si on s'intéresse au type de population qui serait susceptible de fréquenter ce grand axe. Si vous voulez, il faut savoir que les plus difficiles à sédentariser par rapport à des catégories sociales, socio-professionnelles, c'est les cadres supérieurs. Les cadres, plus la mobilité intellectuelle est grande chez nos humains, plus leur mobilité physique est importante. C'est-à-dire qu'ils déplacent énormément, ce sont les cadres sup. Qui a le plus de difficultés à se déplacer, ce sont les populations modestes et peu qualifiées. Donc si on fait un pôle très spécialisé sur le plateau de Saclay, il y a très peu de chances que les gens habitent sur le plateau. Ils habiteront dans des endroits beaux dans les vallées, ils habiteront Paris ou la zone dense au sud de la capitale, et ils prendront des transports nord-sud pour aller bosser sur le plateau de Saclay. Donc, si vous voulez, il y a toutes les chances pour que les logements qu'on a construits, soi-disant pour justifier les implantations d'activités, n'accueilleraient pas les populations qui sont destinées à travailler sur ces pôles.
C'est pourtant un argument, hein, Jacqueline Nortu, c'est un argument qui est souvent répété, c'est-à-dire que ça va créer de l'emploi. Ça va créer de l'emploi.
Les cadres supérieurs se moquent totalement, ce sont ceux qui se déplacent le plus et qui ont les temps de transport les plus longs, parce que d'abord ils bossent dans les transports, et donc ils prennent les transports en commun, ils bossent dans les transports, c'est-à-dire leur cerveau trouve des bonnes idées, ils notent des choses sur leur portable, etc. Donc ils sont pas entassés comme des sardines parce qu'ils ont des horaires qui sont complètement différents. Ils restent chez eux, ils bossent la nuit, ils bossent le week-end, ils communiquent avec le monde entier au point de vue numérique, en échange numérique, et ils ne sont absolument pas, ils n'ont pas avoué à s'entasser en HPM, heure de pointe du matin, comme les petites mains, les premiers de corvée, qui eux sont obligés d'aller au bureau à Orfeim fixe, etc. Ouais. Donc les cadres sont extrêmement volatiles et n'ont pas du tout envie d'être dans une proximité. Ce qui pourrait les attirer sur le plateau de Saclay, c'est que la ville soit attractive. Mais il n'y a pas de ville sur le plateau de Saclay. Il y a un agglomérat d'activités qui sont côte à côte. Il n'y a pas de lien social, il n'y a pas d'histoire urbaine, il n'y a pas de fonction urbaine attractive, il n'y a pas de caractère urbain sur le plateau. Et donc on a posé des choses les unes aux autres, mais c'est les choses posées là, c'est pas parce qu'on met un œuf, une bouteille d'huile et une pincée de sel qu'on fait prendre une mayonnaise. Et donc on est dans une vision totalement mécaniste, absurde. Et donc on sait très bien que ces logements, loin de tout, mal desservis, par rapport aux besoins de la population qui sont nord-sud, eh bien il y a toutes les chances pour qu'ils soient occupés par des gens qui soient assignés à résidence, qui sont des populations modestes qui ne pourraient pas aller ailleurs.
Ouais, c'est déplacé.
Les étudiants, eux, de toute façon, ils passent, ils viennent quelques années, puis après ils repartent. Donc c'est une population très peu enracinée. Et donc on n'a aucune chance de faire une ville et donc d'être attractif pour les cadres supérieurs. Mmh. Donc on a tous les ingrédients pour faire ce que j'appelle une commune dissociée, dont j'ai étudié de nombreux exemples sur l'Île-de-France, et ce qui serait absolument terrible. Ouais. Donc si vous voulez, c'est très joli de prétendre que ça va économiser les gaz à effet de serre, mais le meilleur transport étant celui qu'on ne fait pas, il y a pire que d'économiser des effets de serre avec un transport, c'est ne pas pouvoir prendre ce transport parce qu'on n'en a pas besoin et qu'on n'en a rien à foutre et qu'on a besoin, ouais. On a un autre besoin. Donc ouais. Voilà, donc c'est injustifiable. Indéfendable. Le projet est indéfendable.
Claudine Parer.
Oui, deux choses pour compléter dans le même sens. À propos des déplacements inutiles, il faut quand même rappeler que le pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay s'appuie sur le déplacement et le transfert d'organismes, de facs, d'universités, etc. Depuis la fac qui était près du RERB, qu'on monte Paris-Sud, qu'on monte sur le plateau, l'INRA à Grignon qui vient sur le plateau à Saclay, donc les chercheurs sont consternés.
AgroParisTech voilà. Également qui arrive. Oui.
À EDF, juste pour mémoire, la direction elle avait chiffré elle-même l'allongement des trajets domicile-travail du personnel. Il s'agissait d'un allongement de 22 km aller-retour par personne en moyenne, avec un impact sanitaire environnemental extrêmement important, plus la pollution atmosphérique. Bref, 1,5 million de kilomètres supplémentaires par an a été chiffré. Donc on voit bien que non seulement on a, en faisant ça, transférer des gens, donc augmenter les déplacements, on n'a absolument pas créé des emplois. Il s'agit bien que des déplacements d'emplois, jamais une création d'emplois. Et au contraire, alors, avec le regroupement d'un certain nombre de structures, ça a permis de diminuer les emplois. Donc on n'est pas du tout dans un projet de recherche scientifique mirifique, mais au contraire dans un projet de mise au pas de la recherche. Et alors pour aller dans le même sens que Jacqueline sur un autre point, qui était, on ne peut pas faire une ville sur le plateau de Saclay, heureusement, on n'en veut pas. Mais ce qui est très consternant dans tout ça, c'est que finalement, on est en train de détruire des territoires. Et moi, je voudrais juste revenir sur un symbole. Maintenant, surtout, on parle de Paris-Saclay. Comme si le territoire de Saclay n'avait pas sa propre existence. On n'a pas besoin de s'accoler le mot Paris. On n'en a absolument pas besoin. On n'est pas un féodé à Paris. On a notre existence propre, un territoire qui a des habitants qui réfléchissent depuis très longtemps à leur avenir. Je vous rappelle quand même qu'on a eu sur le territoire du plateau de Saclay la première AMAP d'Île-de-France. Si on est capable de s'organiser, il y a des liens très forts entre les paysans et les habitants. De la même façon, du côté de Saint-Quentin, il y a une vie culturelle, une vie associative très forte du côté de Saint-Quentin. Tout ça fait qu'il y a une vie locale et que nous souhaitons effectivement continuer dans cette logique qui est que il faut que les gens vivent sur place. Quand Jacqueline disait arrêter de dissocier emploi et domicile, parce que les gens, il faut qu'ils vivent sur place, parce que comme ça, ça permet non seulement qu'il y ait une vie locale associative, que les gens s'investissent, qu'ils aient des petits commerces, qu'on ait des centres qui soient vivants. Et c'est vraiment ça le problème du Grand Paris, c'est qu'on considère qu'on va déménager les gens d'un bout à l'autre de l'Île-de-France avec une perte de vie pour les gens, perte de mémoire, perte de repères, des gens qui vont être extrêmement fatigués, qui n'ont plus envie de faire quoi que ce soit dans leur vie familiale parce qu'ils sont épuisés par les transports. C'est la logique globale de l'aménagement du territoire là, qui est en jeu, parce qu'on est vraiment dans une logique actuellement avec les grandes régions qui ont été constituées il y a peu de temps, puis la logique de métropole, dans une logique qui est de perte de proximité pour les gens, de densification des métropoles qui sont les lieux de richesse et avec à leur service les territoires alentours, alors que nous sommes plutôt dans une logique qui est de réappropriation des territoires par les gens et non pas de mise à disposition des richesses des territoires pour la métropole. Il y a un récent rapport parlementaire qui vient de dire que les contrats de réciprocité ville-campagne en fait étaient un échec parce qu'il n'y avait pas de ruissellement.
Ce sont des
contrats qui peuvent être passés entre les villes, les métropoles et certains territoires ruraux. Et en fait, c'est assez étonnant parce que les métropoles parlent de leur territoire euro. Non, ils n'ont pas deux territoires euros. C'est chacun est chez, a, on peut établir des partenariats, mais on n'est pas justement inféodé à l'autre. Et c'est vraiment cette question de la dépendance, hein, parce que les métropoles sont très dépendantes en fait de l'alimentation, bien évidemment, qu'elles ne reconnaissent pas cette dépendance et elles veulent s'approprier en plus les territoires ruraux et que ça ne suscite pas, dit le rapport parlementaire, de ruissellement, ce qui veut dire que même ça, c'est un échec. Donc vraiment, c'est mettre en perspective globalement l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour que les Français puissent vivre bien, qu'est-ce que les Français veulent eux-mêmes, c'est ça la question qui n'est pour le moment pas du tout posé par les politiques.
Alors, Arsmit, justement, je vous vois lever la main, je vais vous donner la parole et puis j'en profite pour vous poser également une question sur l'aspect financier qu'on n'a pas encore abordé, puisque vous le disiez tout à l'heure, hein, tous les arguments qui doivent être en tout cas mis en avant, toute l'évaluation qui doit être faite socio-économique, elle porte également sur le côté financier, c'est-à-dire est-ce que ça va être rentable, est-ce que c'est un projet qui va être rentable, qui va permettre de gagner un peu de sous et pas être déficitaire comme beaucoup de projets. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire justement un mot sur cet aspect financier? Le coût du projet est estimé en 2012, à peu près 2013, à presque 3 milliards d'euros hors acquisition foncière et matériel roulant. Donc ça, faudra m'expliquer ce que ça veut dire. Mais est-ce que vous pourriez dire un mot sur l'aspect financier?
Oui, et auparavant, je voulais rappeler que ce projet-là de ligne 18 est essentiellement un objet de prestige. J'ai entendu personnellement Valérie Pécresse, présidente de la région et de Île-de-France Mobilité, dire dans une réunion publique, mais imaginez-vous le prix Nobel qui arrive à Roissy pour se rendre sur le plateau de Saclay. On ne peut quand même pas lui imposer de prendre ce misérable RERB, lui... Et je ne rajoute rien.
Ça fera plaisir aux miséreux qui prennent le RERB.
Voilà.
Une parenthèse.
Voilà. Et bon, donc, pour mettre les choses en perspective. Quant au coût, il faut savoir que nous sommes en lien avec un club de spécialistes, d'experts en matière de transport qui s'appelle le Cercle des Transports, qui sont tous des anciens hauts fonctionnaires ou hauts dignitaires dans le monde des transports et qui ont publié en 2014 et puis en 2015 des rapports très circonstanciés sur le Grand Paris Express pour montrer que financièrement ce n'était pas jouable. C'est-à-dire que si on fait le Grand Paris Express, il n'y a plus un sou pour entretenir le réseau existant. On n'a pas les moyens pour faire les deux. Et ils avaient estimé que le coût total était de 26 milliards de mémoire et qu'il fallait choisir où on les mettait. Ces gens-là, je les ai rencontrés à plusieurs reprises et l'un d'eux m'a confié qu'il avait présenté ces rapports-là auprès d'un très haut dignitaire, dont il ne m'a pas donné le nom parce qu'il m'a dit « j'ai déjà assez d'ennuis comme ça ». Et ce haut dignitaire lui a dit « mais vous savez, monsieur, on avait envie de faire rêver un peu ». Voilà comment est né le Grand Paris Express. Bon, pour revenir sur l'aspect financier, la Cour des comptes a amplement épluché le dossier du Grand Paris Express dans un rapport qui a été publié début 2018, dans lequel la Cour des comptes montre que on va droit vers une dette perpétuelle, c'est-à-dire que la SGP ne peut jamais rembourser toutes les dettes qu'elle aura contractées. Et bon, entre-temps, la SGP a trouvé la martingale des obligations vertes qui évidemment, ont des taux d'intérêt plus bas que les obligations normales. Donc, ça a diminué un peu la pression. Et puis, par ailleurs, on leur a trouvé de nouvelles taxes par l'intermédiaire de M. Gilles Carrez qui a instauré de nouvelles taxes pour financer le fonctionnement de la SGP. Néanmoins, je pense que la Cour des comptes n'est pas loin de la vérité, que ça va finir par une dette colossale. Et au bout du compte, ce qu'on verra, c'est que c'est l'État qui devra éponger cette dette, comme l'État a dû le faire pour SNCF Réseau. Et donc ce sera aux générations futures de casquer. Et or, les générations futures seront déjà accablées par toutes les conséquences du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, etc. etc. Donc, on prépare...
Aspect écologique qui semble vraiment sous-traité dans cette question, en tout cas, qui semble vraiment sous-évalué.
Elles sont quasiment absentes. Oui. Ouais. Elles sont totalement traitées par-dessus la jambe.
Pour conclure, parce qu'on arrive déjà bientôt à la fin de l'émission, avec beaucoup de choses passionnantes qui ont été dites, et on peut voir d'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Claudine Parer et également Jacqueline Nortois, qui a vraiment deux visions qui s'opposent, hein, enfin vraiment deux visions, une vision un peu, bon j'aime pas trop ce titre, mais un peu mondialisée, hein, où on peut habiter à tel endroit, à Paris, travailler pourquoi pas à Marseille, prendre son café à Bordeaux, bon je caricature un petit peu,
voilà,
une vision à peine caricaturale, où on voilà, c'est un monde, voilà, c'est la France, en tout cas, ou même le plateau de Saclay, doit permettre d'être connecté avec tout le monde et qui fait face à une vision beaucoup plus locale, qui essaie de créer des synergies, voilà, avec, comme le disait tout à l'heure Claudine Parra, avec des paysans du coin pour créer des amas, pour en tout cas, pour avoir des rapports un peu plus humains, un peu moins de construction, moins de densification. Il ne vous aura pas échappé, chers invités, que pour l'instant, c'est le premier parti. C'est-à-dire celui que j'ai cité, celui de plutôt d'un monde mondialisé qui domine et qui est en train de densifier encore plus l'Île-de-France. En préparant cette émission, vous m'avez donné un chiffre auquel j'ai pas cru au début. Je me suis dit ils se sont peut-être trompés dans ce chiffre. Par exemple, rien qu'au niveau des transports, des déplacements en Île-de-France, on compte 45 millions de déplacements. Je me suis dit, ils vont me dire 45 millions de déplacements par an. Millions de déplacements par jour en Île-de-France.
Absolument. Okay. Et ce chiffre augmente de 300 000 par jour chaque année. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'on va droit dans le mur si on continue comme ça.
Donc on est sur la densification pendant que d'autres territoires sont un peu plus déserts. Voilà, bon, ça, ce sera le sujet certainement d'une autre émission. Je vais vous laisser conclure.
Une petite remarque. Là. Vous avez dit que ça coûtait 3 milliards, le Grand Paris Express.
Oui, la ligne 18, pardon. C'est ce qui était marqué sur le site du Grand Paris. Ouais.
Mais ça, c'est une information ancienne. Le coût estimé aujourd'hui, si toute la ligne se réalisait, serait de 4,5 milliards. Dont 1,5 milliard pour le tronçon qui est le plus dévastateur, celui de Saclay à Versailles.
Je vous laisse un mot de conclusion chacun. Vous pourrez d'ailleurs, Claudine Parer, parler également du livre que vous avez justement à libre disposition, en tout cas, qui est sur Internet. Donc, Citoyens de Terre contre État de Fer, un ouvrage collectif qui est disponible sur Internet. Je vous laisse un mot de conclusion chacun. Art Smith d'abord, ensuite Claudine Parer. On terminera avec Jacqueline Nortois. Allez-y pour votre mot de conclusion, Art Smith.
Oui, ce qu'on n'a pas du tout abordé comme sujet, c'est que on peut faire beaucoup mieux que la ligne 18.
Oui, les alternatives.
On n'a pas besoin de la ligne 18, mais et pour répondre.
Je me permets de vous couper sur cette alternative, puisque je pense qu'on fera une émission peut-être spécialement sur ça à venir, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je vous laisse quand même dire un mot sur les alternatives. Allez-y.
Oui, donc la ligne 18 ne correspond pas aux besoins, comme l'a bien très très bien expliqué Jacqueline. Elle va est-ouest, alors que les besoins sont nord-sud. Alors pour répondre à ces besoins nord-sud, il y a des solutions que nous avons proposé et qui relève davantage du transport local de proximité que du transport de transit comme la ligne 18 qui font par exemple pour aller de la vallée de l'Yvette sur le plateau qui ne fait que 1,5 km, on peut très bien emprunter un téléphérique.
Voilà. Donc et ça puis, c'est une proposition en tout cas du collectif.
On peut y revenir plus en détail.
Claudine Parer pour conclure.
Oui. On parle beaucoup des invisibles comme métier actuellement. Je pense que pour ce qui se passe sur le plateau de Saclay, les décideurs ont décidé d'invisibiliser les conséquences de leurs actions, c'est-à-dire les dégradations de l'environnement, les dégradations de l'agriculture, de la biodiversité sur le long terme. la dégradation de la vie des gens, parce que les gens, ils habiteront de plus loin de leur domicile. On l'a déjà dit, parce que c'est une violence forte contre la mémoire d'un territoire. Et toutes ces dégradations-là, toutes est invisibilisée. On ne veut pas en tenir compte, soit le déni, soit la volonté de ne pas en tenir compte, pour pouvoir avancer des pions qui sont plus les pions de la spéculation foncière et immobilière que les pions de la solidarité et du bien-vivre.
Jacqueline, alors toi, pour terminer...
Moi, je dirais que ce qui est assez fou, c'est qu'on continue à bétonner et les grues continuent à bosser les tunneliers, à creuser des tunnels, alors que la crise sanitaire qu'on traverse depuis 2 ans met complètement à bas les projets absurdes de grandeur, puisqu'on s'aperçoit que les métropoles sont les sites les moins adaptés à la crise sanitaire, qui est en fait une crise sanitaire entraînée par la crise écologique, et parce que justement l'espèce humaine n'est pas foutue de respecter les espèces sauvages, et donc il y a des passages entre espèces qui n'existaient pas jusque-là, et donc on a une crise sanitaire majeure, et qu'on a des réponses complètement décalées, et on continue à bétonner, à faire des grues, à donner du fric aux lobbies du BTP qui se sont engraissés de façon absolument scandaleuse avec les marchés publics, alors que finalement la pandémie a montré à la fois le rôle complètement inutile d'un certain nombre d'élites, les fameux soi-disant premiers de cordée qui se sont révélés complètement nuls sur l'analyse et la mise en place des stratégies pour contrer cette crise, pour gérer cette crise. Et à côté de ça, ceux qui étaient utiles, c'était les premiers de corvée, les petites mains des banlieues populaires et des banlieues périphériques qui ont fait tourner la grande machine du centre de l'agglomération. Donc on voit que tout concourt à stopper tout ça, à faire un moratoire sur ces grands projets extrêmement chers et complètement décalés par rapport à cette crise qui est à la fois écologique, sanitaire, sociale et tout ça. Les inégalités territoriales que je regarde de façon très précise, que je couvre avec les yeux de chimène pour voir si elles n'augmentent pas, ont complètement explosé. Les 500 plus grosses entreprises ont fait 30% de bénéfices, se sont enrichies de 30% pendant la 2020.
Pendant la crise, oui.
Et donc, là, maintenant, toutes ces élites se sont complètement décrédibilisées. On voit bien que ce n'est pas un problème technique. On a voulu faire des réponses techniques, on a voulu sortir des chiffres, faire des argumentaires complètement biaisés, etc. Mais le réel montre que c'est complètement différent, que c'est le local, c'est la proximité, c'est le geste social
qui a
permis à nos civilisations de tenir le coup par rapport à cette crise monstrueuse.
Je vais vous couper, Jacqueline, on arrive déjà à la fin de l'émission. Merci, on aura compris en tout cas la demande forte de local et de proximité qui est née notamment des premiers confinements et de cette crise du Covid. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Alors il y avait beaucoup de choses à dire. On continuera bien sûr toute cette série, il y a encore 4 émissions à venir sur la thématique des enjeux du plateau de Saclay. Merci à tous les trois et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Merci.
Vous en prie.
C'était Micro Ouvert,
présenté par Nouradine Anne.
Une chose à nous dire, c'est simple, le micro est ouvert sur Marmite FM.